France Inter.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Nous marchons tous les jours sans y penser, un pas après l'autre, et pourtant pendant des siècles, personne ne s'est vraiment demandé ce que nous faisions exactement lorsque nous marchions. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que ce geste banal commence à intriguer les savants, les médecins, les philosophes ou les écrivains. À l'heure où les carrosses sillonnent l'Europe, où les machines accélèrent les déplacements, certains choisissent au contraire d'aller à pied. Rousseau, Balzac, plus tard Nietzsche, mais aussi des physiologistes et des militaires, tous observent ce corps qui avance, oscille, se coordonne et trébuche parfois. Tous cherchent à comprendre ce mystère ordinaire, comment un être humain tient-il debout, comment se met-il en mouvement et comment pense-t-il d'ailleurs aussi en marchant. Car la marche n'est pas qu'un moyen de transport, elle devient aussi un objet de savoir qui est mesuré, analysé et photographié. On tente d'en faire une mécanique et une signature individuelle. La démarche devient alors à la fois science et politique. Elle dit l'ordre social, la discipline des corps, mais aussi la liberté du promeneur solitaire qui refuse la vitesse imposée par les machines. Cette histoire méconnue nous rappelle que ce geste que nous croyons le plus naturel est aussi l'un des plus construits et des plus chargés de sens. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Andreas Mayer.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre, La Marche, histoire d'une fascination savante, 1770-1914. C'est très précis, publié aux éditions des Belles Lettres et qui retrace donc l'émergence progressive de savoir consacré à la marche humaine qui est donc restée, c'est vrai, pendant assez longtemps, un geste ordinaire qui n'était franchement pas interrogé. Et vous ouvrez votre livre par une interrogation simple donc en apparence. Qu'est-ce qu'on fait exactement lorsque nous marchons? Pourquoi cette question si élémentaire? Est-ce qu'elle a mis autant de temps finalement à émerger dans l'histoire des sciences?
Oui, en effet, c'est une histoire qui n'a pas trop fait problème au XVIIIe siècle, parce que tout le monde marche.
Et on ne se pose pas la question finalement.
On ne se pose pas la question, c'est-à-dire on marche, on parcourt des très longues distances, on a le voyage à pied, qui est c'est-à-dire un déplacement qui est économe et c'est les classes populaires, mais aussi des savants qui vont marcher pour d'autres raisons. Beaucoup d'hommes cultivés qui marchent, qui vont s'intéresser à cet acte ou le valoriser plutôt, ou dire c'est quelque chose qui nous donne un regard sur le monde qui est complètement différent que quand on se déplace en carrosse, en chaise de poste. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs très fortes attachées à la marche. C'est-à-dire que c'est un objet qui n'est pas interrogé, mais qui va être interrogé au fur et à mesure justement parce qu'il porte ces valeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut améliorer la marche? Non, les militaires se posent cette question, c'est-à-dire on commence avec des mesures, il y a des transformations dans la vie politique militaire, il y a les batailles changent, c'est-à-dire on va avoir des terrains plus complexes, c'est-à-dire il faut mener une bataille différemment, c'est-à-dire il faut organiser le déplacement d'une autre manière. Donc, les modes de transport changent, c'est-à-dire on a le réseau des rues, on a évidemment le chevaux, les chaises de poste, c'est-à-dire on a tout un système très complexe où il y a des accidents. Donc, dans tout cela, la marche de l'homme dans la nature, en quelque sorte, s'oppose à ces machines, à ces artifices.
C'est trop ordinaire, finalement.
Voilà. C'est-à-dire, on pense que, finalement, il y a quelque chose de simple. La marche est quelque chose de simple. Et, finalement, c'est Dieu, en quelque sorte, qui a arrangé tout ça, c'est-à-dire elle a créé avec l'homme une machine extrêmement complexe, admirablement complexe, mais simple à la fois, donc on n'interroge pas. Bon, mais au fur et à mesure...
Alors c'est ça. En fait, ça commence quand? Parce que vous prenez comme point de départ 1770. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors, exactement, sur la façon dont on interroge la marche?
On a les philosophes, on a les Lumières, c'est-à-dire on a une nouvelle interrogation... de ce qu'on comprend comme la mécanique de la marche.
Ça devient une science à ce moment-là, on pourrait presque dire, ou pas ?
Je dirais plutôt un savoir. C'est-à-dire qu'on a un savoir pratique, c'est-à-dire qui est lié à ce qu'on peut observer sur à la fois des cadavres, c'est-à-dire parce que souvent on fait des expériences sur le corps mort et on déduit les lois du mécanisme de la marche, comme dans le traité encore au XVIIe. C'est-à-dire qu'on a tout ce savoir selon lequel le corps se meut comme une machine, c'est-à-dire comme un corps inanimé. Mm-hmm. Ça, c'est évidemment trop schématique et il y aura des médecins, notamment de l'école de Montpellier, qui sont très proches de Diderot, de D'Alembert, quelqu'un comme Barthès, qui vont critiquer ça et dire il doit y avoir des forces inconnues qui agissent là. Il faut connaître ces forces inconnues.
Donc la réflexion, avec une certaine méthode scientifique en tout cas, se met en place à ce moment-là.
Oui, se met en place à ce moment-là. Ouais.
Vous insistez beaucoup justement sur l'importance du voyage à pied dans cette pensée des Lumières. En quoi justement marcher devient une autre manière d'exister au milieu justement de ces transformations dont vous parlez autour des mobilités là, à ce moment-là ?
Oui, on a évidemment Rousseau, donc, qui est un peu le porte-parole de tous ces gens qui vont revendiquer la marche comme une vertu. Oui. C'est-à-dire de dire, marcher, c'est pas juste se déplacer parce qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas se payer le carrosse ou pas, on n'a pas de cheval, mais c'est supérieur, c'est moralement supérieur. C'est-à-dire, c'est des gens que, par exemple, je prends Soim, Johann Gottfried Soim, qui est un peu pas très connu en France, même si c'est maintenant traduit. Il publie un texte tout à fait étonnant, La promenade à Syracuse, c'est-à-dire il marche de Leipzig à Syracuse. Ouais. Bon, il prend aussi le bateau.
Ça fait une bonne distance quand même.
Là, il ne marche pas parce que c'est trop dangereux. Ouais. Mais c'est la seule raison. Il prend le bateau parce que c'est dangereux, il y a les brigands et tout ça. Voilà. Mais dans ce récit, qui est vraiment extraordinaire, qui est aussi un récit politique, il insiste beaucoup sur l'acte de marcher, c'est... Il y a un parti pris humaniste, c'est-à-dire on rencontre les gens réellement. C'est dans la rue, on le voit en face, c'est-à-dire on le regarde en face.
Ça devient presque une intention politique ou sociale, en tout cas,
c'est ça.
D'aller vers l'autre.
Oui, c'est ça, d'aller vers l'autre, alors que quand on est en chaise de poste, c'est-à-dire on est enfermé.
Dans son carrosse aussi.
On n'a pas de contact avec les gens, c'est-à-dire on est... Voilà, c'est la distance, mais c'est aussi une... il y a aussi un argument esthétique, évidemment, c'est-à-dire on ne voit rien, c'est-à-dire les choses volent.
Et alors, chez Rousseau, vous dites aussi à quel point, finalement, la marche est associée aussi au mouvement de la pensée. C'est-à-dire que
tout à fait. La
pensée aussi s'exprime, donc il y a toute une liberté intellectuelle et une expérience aussi directe du monde par la marche.
Absolument, absolument. C'est-à-dire pour connaître à la fois l'homme et la nature, il faut marcher. On ne peut pas... Et aussi, chez Rousseau, ce qui est étonnant, il y a toute une polémique contre les instruments. C'est-à-dire une polémique aussi contre la science, en quelque sorte, contre la physique. C'est-à-dire tout ce qui met l'homme à distance, c'est-à-dire l'homme doit trouver ses outils en soi-même. Ouais. C'est-à-dire il a les jambes, les yeux, c'est-à-dire les sens. C'est-à-dire il faut aiguiser les sens, et c'est dans les milles surtout. C'est-à-dire il faut une éducation du corps, mais aussi de l'esprit, qui se fait par la marche.
Ouais, c'est intéressant parce que ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir encore aujourd'hui,
absolument.
Finalement, sur l'autonomie du corps,
absolument.
Par rapport précisément aux modes de transport, et qui en plus ont des impacts aussi sur la nature. Hein. On va écouter une lecture de Jean-Jacques Rousseau, lue par Éric Ruff. C'était sur France Culture l'année dernière, extraite des rêveries du promeneur solitaire.
Nous n'avons guère de mouvement machinal dont nous ne puissions trouver la cause dans notre cœur si nous savions bien l'y chercher. Hier, passant sur le nouveau boulevard pour aller herboriser le long de la Bièvre du côté de Gentilly, je fis le crochet à droite en approchant de la barrière d'enfer. Et m'écartant dans la campagne, j'allais par la route de Fontainebleau gagner les hauteurs qui bordent cette petite rivière. Cette marche était fort indifférente en elle-même, mais en me rappelant que j'avais fait plusieurs fois machinalement le même détour, j'en recherchais la cause en moi-même. Et je ne pus m'empêcher de rire quand je vins à la démêler.
Voilà, extrait des rêveries d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, lu par Éric Ruff. Andreas Mayer, il a beaucoup, beaucoup marché, Jean-Jacques Rousseau.
Ah oui.
C'était
oui,
vraiment un grand marcheur.
Bien sûr.
Ça accompagnait, oui. Ça a été aussi au cœur de son écriture. Hein.
Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire, bon, Rousseau prétend qu'il écrit en marchant. C'est-à-dire, c'est une poétique de la marche. Et ça, c'est un thème fondamental qui, après, est repris par beaucoup d'autres auteurs. Qui se démarque de Rousseau, comme Balzac, par exemple, avec sa théorie de la démarche.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
Oui, voilà. Ouais. Voilà.
Et donc Rousseau, effectivement, il réfléchit à ce qu'il va écrire en marchant. Hein. C'est vraiment là qu'incube, au fond, sa pensée. Vous parlez précisément de poétique. La valorisation de la marche, ça n'est pas qu'une poétique aussi. Vous inscrivez ça aussi dans une anthropologie, dans le rapport aussi
absolument.
Des humains.
Parce qu'évidemment, quand on marche, on n'est pas seul. On voit d'autres qui marchent. C'est-à-dire, on s'observe, on s'auto-observe. C'est-à-dire, il y a toute une... Évidemment, c'est quelque chose qui naît déjà avant. C'est-à-dire, on a déjà ce genre de sémiotique très codifiée de la cour, hein, les maîtres de danse, les codifications de l'honnête homme, c'est-à-dire on a le livre del Cortigiano, Castiglione. Mais tout ça retrouve une reformulation au XVIIIe siècle et avec un discours plutôt, on va dire, médical, anatomique, c'est-à-dire il faut être près des lois de la nature. C'est-à-dire il faut pas faire des mouvements extrêmement compliqués. Il faut être simple et efficace. C'est-à-dire l'aisance passe par la simplicité. C'est-à-dire ça, ce sont des vertus esthétiques, mais aussi morales. Et oui.
C'est cette anthropologie dont vous parlez. Hein,
oui, mais après, qui mène aussi à une observation des autres et des démarches défectueuses, vicieuses, qu'on dénonce comme...
Qu'est-ce que c'est qu'une marche vicieuse ? Vous pensez à quoi ?
Évidemment, ça se retourne complètement comme ce que associe avec la cour, avec les démarches caractéristiques de ces codifications, c'est-à-dire une démarche trop laborieuse.
La pompe, ce qu'on pourrait dire.
La pompe artificieuse, oui. Voilà.
Est-ce que vous avez beaucoup marché en pensant à l'écriture de ce livre vous-même, Andreas Mayer, ou pas ? Vous êtes un grand marcheur ?
Moi, j'ai toujours marché. Comme je suis autrichien, déjà, dans les montagnes...
C'est culturel pour vous,
Oui, mais bien sûr. Les livres sont dédiés à mon grand-père, avec qui j'ai marché dans la montagne. C'est-à-dire, il y a quelque chose de personnel aussi. C'est vrai, parce qu'on veut comprendre d'où on vient, en quelque sorte.
Et donc, comme Rousseau d'ailleurs, vous pensez beaucoup à ce que vous écrivez marchant. Votre travail scientifique, il s'est beaucoup fait en marchant.
Oui, je crois que c'est nécessaire de...
Comment vous l'expliquez ça, parce qu'on l'a tous observé, que dans les moments justement où on a pu consacrer du temps à la marche, c'est là souvent que les idées, les envies naissent. Pourquoi est-ce que c'est un moment privilégié pour ça, pour chacun
d'entre
nous ?
Parce que c'est lié à l'attention, c'est-à-dire parce que l'attention est détournée en quelque sorte, Je crois qu'il ne faut pas être trop obsessionnel. Bon, Rousseau était un peu obsessionnel quand même, mais quand on est trop obsessionnel, et on est devant sa feuille, et on veut écrire et tout ça...
Mais on bute.
Oh, ça ne marche pas. Voilà. Alors que le regard qui se porte sur beaucoup d'objets qui n'importent pas forcément maintenant à l'objet auquel on pense, l'attention flotte un peu. C'est ce que Freud appelait la libre association. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai aussi écrit un texte qui n'est pas dans le livre, mais où je montre que la libre association de Freud est très liée au mouvement et à la marche, parce que Freud aussi marchait beaucoup.
Et c'est un espace de liberté où tout peut naître, finalement, pendant la marche. On va voir comment la marche, justement, puisque c'est quand même un objet scientifique, dans votre ouvrage, a été observé très près, disséqué, on pourrait dire, et puis évidemment interprété. On va en parler dans un instant avec vous. Vous répondrez également aux questions et aux messages qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré. On va voir si nos auditeurs et auditrices ont des choses à nous dire autour de la marche et je vous transmettrai leurs messages dans quelques minutes.
France Inter. Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Andreas Mayer, vous êtes notre invité aujourd'hui autour de ce livre « La marche, histoire d'une fascination savante ». C'est publié aux éditions des Belles Lettres. Et dans ce livre, vous racontez qu'au début du 19e siècle, on avance un petit peu dans l'histoire, la marche devient un enjeu central justement pour la science de l'homme, de l'humain. Donc, hein, qu'est-ce qui change à ce moment-là dans les méthodes d'observation exactement? Qu'est-ce qui se passe?
On est les médecins donc sont face à des une complexité grandissante et il faut aussi dire le champ de la médecine s'étend parce que un médecin est compétent en quasiment de tout, c'est-à-dire on a des gens comme
c'est très généraliste
Oui, c'est très généraliste, mais on a des disons quelqu'un comme Philippe Pinel, le psychiatre. C'est des philosophes, c'est-à-dire c'est les médecins philosophes, on les appelle, qui descendent souvent de l'école de Montpellier, comme Pinel aussi. C'est-à-dire Pinel, par exemple, je prends l'exemple de l'aliénisme. Donc il est face à ses patients et il est à la fois fasciné et troublé par la multiplicité des symptômes, c'est-à-dire des changements, c'est-à-dire des démarches, des gestes étranges, bizarres. Comment décrire ça? Donc on est devant quelque chose qui est énigmatique et troublant.
Donc du coup, on adapte une observation très fine des gestes.
Très fine, c'est-à-dire il faut comprendre les détails, c'est-à-dire c'est-à-dire en quelque sorte c'est une rupture avec... avec la rhétorique classique. C'est-à-dire, c'est souvent des psychiatres qui ont été... des aliénistes, plutôt. Psychiatre, c'est un terme plus tardif. C'est des aliénistes encore formés dans la rhétorique classique. C'est-à-dire, il y a des figures dans la rhétorique. Il y a une codification.
Ouais. Alors que on est dans des singularités corporelles,
on est dans des singularités.
Hein.
C'est-à-dire, et maintenant, on s'interroge... est-ce qu'il y a des types? Est-ce qu'on peut ramener ça à un type? Mais pour ça, il faut être exhaustif, il faut enregistrer toutes les singularités.
Donc, comment ça se passe concrètement? Ces scientifiques de l'époque, là, ils font marcher des gens,
ils les observent.
Ils essaient d'avoir un panel le plus large possible.
Tout à fait, voilà, ils les observent, ils vont dans la rue aussi, parce que, c'est-à-dire, le champ d'observation, c'est partout. C'est-à-dire, quand on dit... au début du 19e siècle, la physiologie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, la physiologie des passions, ça peut être la physiologie du goût, comme Brillat Savarin, ça peut être la physiologie... C'est-à-dire, on a tous les comportements, en quelque sorte, sont susceptibles d'être l'objet de la physiologie. C'est-à-dire, c'est déjà l'anthropologie.
Oui,
c'est un mot qui apparaît aussi, déjà. C'est-à-dire, on veut saisir l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire on veut saisir vraiment la totalité. Et c'est à la fois fascinant et difficile, parce que, saisir la totalité avec ses yeux, parce qu'en fait, il n'y a aucun appareil, aucun instrument intervient. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas un problème, on va dire, d'enregistrer tout ça, mais plutôt de le saisir et après de procéder, en fait, de le ramener à quelque chose d'intelligible.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, la fonction physique, mécanique de la marche, en fait, elle est aussi au service d'une compréhension psychique de l'individu, en fait.
Voilà.
C'est ça que ça veut raconter aussi, quand même.
On veut aller même jusqu'à dire, quand on regarde quelqu'un marcher dans la rue, on ne sait pas non seulement qui il est ou elle socialement, on va dire, on connaît le caractère, on connaît le caractère de cette personne, mais aussi ce qu'il ou elle pense.
Ouais.
C'est-à-dire, on va vraiment sonder l'individu de manière très, très profonde.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'ailleurs, de cette façon d'observer les choses? Est-ce qu'en regardant quelqu'un marcher, on peut définir quelques traits psychiques de la personne, selon vous? Ou pas? Vous êtes viennois, je le rappelle.
À mon avis, oui. Et en fait, on fait tous l'expérience. On est quelque part et on regarde les gens marcher et on voit quelqu'un et on se dit « Ah, je connais cette personne exactement. » Et après, on se dit « Pourquoi j'ai reconnu cette personne ?»
Parce qu'on a reconnu son pas d'abord.
On a reconnu le pas. C'est la première chose parce qu'il y a quand même des détails.
Oui, donc c'est vraiment des marqueurs d'individualité. Totalement. C'est ce que vous racontez, oui. Oui. Déjà, à partir de cette période-là, du 19e. Honoré de Balzac, qui joue un rôle singulier, lui aussi, dans votre livre. Et pour en parler, on va écouter une courte lecture de Ferragus, c'est son roman de 1833.
Cette esplanade, d'où l'on domine Paris, a été conquise par les joueurs de boules, et dont les physionomies ne peuvent être comparées qu'à celles de leur public, à la galerie mouvante qui les suit. Ce nouveau venu marchait sympathiquement avec le cochonnet, petite boule qui sert de point de mire et constitue l'intérêt de la partie. Il s'appuyait contre un arbre quand le cochonnet s'arrêtait, puis, avec la même attention qu'un chien en prête aux gestes de son maître, il regardait les boules volant dans l'air ou roulant à terre.
Voilà, lu par Bernard Gabet, cet extrait donc de Ferragus, de Honoré de Balzac en 1833. Est-ce qu'on peut s'intéresser à la marche d'un joueur de boules, Andrés Maier?
Bah oui,
ça raconte quelque chose.
Bah, ça raconte...
C'est une courte marche quand même, hein, celle du joueur de boules. Mais...
C'est vrai. Mais de toute façon, surtout dans ce texte qui est extraordinaire de Balzac, cette ouverture de Ferragus, Balzac s'intéresse mais aux gestes, aux pas, à tout. Il y a cette autre scène qui intervient juste. Quasiment à la même page, il y a ce déchiffrement d'une femme, c'est uniquement à partir de son pas. Et l'observateur s'interroge, mais pourquoi cette femme, elle est dans cette rue? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette rue? Parce qu'elle n'appartient pas à cette rue, parce que c'est une rue infâme. Pourquoi elle est dans ce quartier? Aussi, évidemment, pour Balzac, en fait, Paris est un espace extrêmement codé, c'est-à-dire chaque endroit à sa physionomie, c'est-à-dire on a la physionomie des lieux, mais il y a la physionomie des marcheurs aussi, c'est-à-dire il y a l'empire de la physiognomonie, on pourrait dire.
Il a dû marcher beaucoup dans le quartier d'ailleurs, hein. Ici nous sommes à la maison Laredo dans le 16e arrondissement.
Tout à fait.
Et la maison d'Honoré de Balzac se trouve à quelques mètres d'ici, donc on imagine qu'il a dû arpenter beaucoup les bords de Seine en particulier, et puis le quartier. Pourquoi il est si important dans cette histoire de la marche Andreas Maier-Balzac? Parce qu'il y a Ferragus, donc ce roman de 1833, il y a aussi la théorie de la démarche, c'est un autre texte sur lequel d'ailleurs vous avez travaillé, sur lequel vous avez publié. Qu'est-ce qu'il raconte là-dedans, en fait? Il en fait une science?
Oui, Balzac revendique d'inventer une nouvelle science. Il dit, j'ai découvert une nouvelle science, c'est la théorie de la démarche. Et je suis le premier. Et en fait, l'ambition de Balzac est de, justement, on a déjà parlé du 18e, de la poétique de la marche, Rousseau, après la mécanique, et maintenant, voilà, la sémiotique, on pourrait dire, Balzac veut vraiment intégrer ces trois points de vue, et dire, il faut, pour comprendre la totalité de l'homme, il faut avoir ce triple point de vue.
Donc il veut faire une science globale de la marche, finalement. Et il y parvient ou pas? Ou est-ce qu'il se heurte, justement, à l'académisme?
Le problème, c'est évidemment, les savoirs sont spécialisés déjà, c'est-à-dire nous sommes déjà à l'époque, les années 1830, c'est un texte qui apparaît en 1833, où en fait, précisément, les médecins, les savants, déjà investissent beaucoup dans la mécanique de la marche. Et en fait, on peut lire ce texte, et je le fais, comme une critique de la tentative de, en quelque sorte, extraire la marche, c'est-à-dire purifier la marche, de le mettre au laboratoire, en quelque sorte. Et voilà, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la marche naturelle n'existe pas. Il n'y a que de déformations, en quelque sorte. Il n'y a que de singularités. Et il faut les décrire toutes. Et si on veut le faire, on devient fou. C'est-à-dire comme ça, il dit, voilà, la théorie de la démarche, il faut avoir cette audacité. Et si on veut penser cet objet, on est au bord de l'abîme constamment, et la pensée se confond, et on risque de tomber. C'est-à-dire, c'est toujours l'image de la chute, parce que le problème de la marche, c'est la chute.
Ah ben justement, parce que vous racontez aussi que les troubles de la marche deviennent aussi un objet central dans cette science-là du 19e. Donc l'échec de la marche intéresse aussi les savants de l'époque.
Tout à fait. La neurologie est née de cette problématique. Duchesne de Boulogne, en fait, fait suite.
C'est un médecin,
on pourrait dire. Oui, un des grands fondateurs de la neurologie. un des maîtres, en quelque sorte, aussi de Charcot, accueilli par Charcot à la Salpêtrière à la fin de sa vie, bah, Duchesne de Boulogne, il regarde dans la rue les gens marcher et en fait, il voit un cas et ça lui permet d'en faire la théorie. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'observation du quotidien. Hein, qui est essentiel.
Ouais.
Mais c'est l'idée, le regard médical qui perce en quelque sorte.
Mais vous dites, la marche est toujours irrégulière finalement. Il y a toujours quelque chose un petit peu de.
Bah oui. De toute façon, le problème après va être pour ces médecins de distinguer. C'est-à-dire parce qu'après on se demande bon est-ce que ce sont, on va dire, des irrégularités encore dans la norme, en quelque sorte, ou est-ce que ce sont des irrégularités qui trahissent qui révèlent une pathologie ?
Mm-hmm.
Est-ce que c'est un alcoolique ou est-ce que c'est un ataxique, etc. Et après, il y a toute la question du diagnostic différentiel. Et là, c'est un art dans lequel Charcot, Gilles de la Tourette, Excel...
Il y a d'autres acteurs dont on va parler dans un instant, parce que cette histoire, elle évolue aussi jusqu'aux portes du XXe siècle. On va voir qu'aussi, il y a de nouveaux dispositifs qui vont permettre de comprendre justement la marche. On en parle avec vous, Andreas Maier, et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Andreas Maier, vous êtes notre invité cet après-midi avec ce livre, donc La Marche, histoire d'une fascination savante, qui nous emmène de 1770 à 1914. Je le disais, tout est précis. C'est publié aux éditions des Belles Lettres. Et vous évoquez également les travaux des frères Weber. Alors, qui sont-ils pour nombreux d'entre nous qui ne les connaissent pas? Et pourquoi ça constitue là aussi un moment clé dans cette histoire de la marche?
Oui, les frères Weber, ils sont très jeunes à l'époque. C'est Wilhelm qui est physicien, Édouard qui est anatomiste. Et en fait, c'est leur première étude qu'ils font ensemble en 1836, le traité sur la mécanique des outils locomoteurs. Et leur objet est la marche naturelle, c'est-à-dire la marche réduite à son expression mécanique. Donc, ils font totalement abstraction de tout ce qui est culturel, social. C'est-à-dire aussi, évidemment, c'est l'homme qui marche, c'est-à-dire pas les femmes, pas les enfants. Donc, tout ce qui dévie en quelque sorte d'un sujet idéal, en quelque sorte, pour eux. Et leur théorie, a fait carrière, mais une courte carrière, parce que cette théorie est quand même assez critiquée. C'est-à-dire, pour eux, c'est l'oscillation de chambre uniquement qui constitue l'essentiel de la marche. Et pour eux, c'est comme un pendule, c'est-à-dire c'est en quelque sorte la force de gravité qui préside à la marche. Hein. C'est-à-dire, ils font abstraction du tronc, ils font abstraction des bras, de la tête, c'est-à-dire il n'y a aucune... C'est quand même étrange, c'est-à-dire aucune interrogation du système nerveux, etc., alors qu'il y a déjà quand même des études là-dessus. Hein. Mais ils ignorent totalement tout ça.
Mais pourtant, ça a un certain succès quand même. Leur analogie entre la marche et le pendule, justement,
tout à fait.
A connu un sacré succès à ce moment-là.
Et le succès, on comprend le succès, parce qu'en fait, ça intervient à un moment, à la fois dans un contexte politique et militaire, je dirais, la question se pose, comment peut-on améliorer les marches des troupes, etc. Il y a cette incertitude, ce doute. Est-ce qu'on peut tout calculer Il y a le fameux traité de Clausewitz sur la guerre à l'époque, c'est-à-dire où Clausewitz dit on ne peut rien calculer, il n'y a que la friction. Voilà, c'est-à-dire, et il prend l'exemple de la marche. C'est toujours l'exemple de la marche, c'est-à-dire... Il y a le terrain est très complexe, c'est-à-dire le corps, les pieds s'adaptent en quelque sorte.
Sauf que eux, ces frères Weber, ils veulent quasiment faire un modèle mathématique.
Voilà, modèle mathématique.
Que tout le monde puisse comprendre.
Ils font totalement abstraction du terrain, de tout, c'est-à-dire ils mettent le sujet en laboratoire, quelqu'un marche sur un fil en quelque sorte, et après, ils font un calcul, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire ça purement dans leur tête, c'est-à-dire sans faire des expériences. Pas ce qu'on leur reproche, aussi.
Oui, parce que ça va quand même susciter beaucoup de critiques.
Bah oui, et notamment, voilà, les neurologues, après, voilà, Duchesne Boulogne, qui dit, bon, il suffit de regarder un seul homme marcher dans la rue pour réfuter cette théorie.
C'est ça, il y a une complexité physiologique, évidemment, et sensorielle aussi de la marche.
Bah,
donc ça
ne
peut pas coller comme ça.
Il y a les muscles, c'est-à-dire pour le neurologue, évidemment, c'est l'action réflexe.
Donc on ne peut pas en faire une grille de lecture comme ça, pure et simple, qui s'adapterait absolument à tout. On va évoquer la chronophotographie, Andreas Mayer, et pour en parler, on va écouter ce document des actualités françaises de 1954 qui évoque la figure d'Étienne Jules Marais.
Marais, dès 1888, c'est-à-dire avant les frères Lumière, avait inventé cet appareil qui permettait de reproduire photographiquement le mouvement. Ses premiers essais, marche du chien et chute d'un chat, sont donc authentiquement les premières manifestations de ce qui devait un jour s'appeler le cinéma. Son élève Nogues, qu'on voit ici, devait perfectionner ses essais en augmentant la vitesse des prises de vue. C'est à 400 images par seconde que furent filmés le saut du tabouret et la foulée de Jean Bouin, le fameux champion.
Voilà la figure de Jules Marais. Ça reprend d'ailleurs cette idée-là en couverture de votre livre, Andreas Mayer. On voit, alors, décrivez-nous, parce qu'on a tous ces images, on les connaît tous. Alors c'est un homme nu, sportif.
Voilà. C'est-à-dire, l'essentiel était d'avoir les hommes nus, parce qu'en fait, on voit très bien le jeu de muscles,
les mouvements.
C'est-à-dire, avec le vêtement, on ne voit rien. Et c'est-à-dire, Marais, il a conçu ça pour contrer aussi un peu les critiques qu'on avait faites sur sa première méthode, c'était la méthode graphique, pas chronographique, où il y avait des tracés, c'est-à-dire où il y avait un appareil un peu lourd, mis sur le sujet, c'est-à-dire qui enregistrait les mouvements divers, avec des tubes de caoutchouc, etc. Il y avait des tracés. Le problème, c'est quand on met un appareil lourd sur le corps du sujet, évidemment, on déforme le mouvement. C'est-à-dire, on crée un biais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, la chronophotographie permet de se défaire du biais.
Donc ça, on a ces images prises avec des très courts intervalles de temps qui permettent d'analyser le mouvement du sujet. Ça fait avancer la science de la marche aussi ? Ça apporte beaucoup dans les connaissances ou pas ?
Disons, l'analyse du processus concret, c'est de ce qui se passe réellement et ce que l'œil ne peut pas percevoir.
Ouais.
Parce que là, c'est vraiment, ça fait rupture avec un autre régime d'observation où on était avant, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire où il y avait la revendication, il faut tout voir, il faut tout enregistrer. Et comme disait Balzac, on est au bord de la folie parce qu'on peut
pas... On n'a pas les outils.
Non, le cerveau est surchargé.
Ouais.
Alors que là... Le pari de Marais, c'est on va mécaniser tout. C'est-à-dire que c'est la mécanisation totale de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un sujet qui enregistre quoi que ce soit.
Ouais.
C'est l'appareil qui enregistre. Néanmoins, malheureusement, après, il y a un sujet humain qui doit interpréter les images.
Ouais.
Pour Marais, c'est aussi un processus quasiment mécanique. C'est-à-dire, mais évidemment, ça, c'est une idéalisation.
Mais ça transforme quand même la compréhension du corps en mouvement.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Oui, ça le transforme. Ça crée aussi, pour dire, une nouvelle esthétique qui a un effet sur l'art. C'est-à-dire, il y a les artistes reprennent ça, soit des façons critiques, soit des façons tout à fait élogieuses, comme Paul Richer qui travaille avec Marais. C'est-à-dire, il y a toute une peinture. C'est-à-dire, on veut se rapprocher de la vérité, on veut représenter le mouvement tel qu'il est, tel qu'il est représenté par la science.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que cette histoire de la marche, Andreas Mayer, c'est une histoire du regard qu'on porte sur le corps humain?
Oui,
globalement.
Oui, absolument. Finalement, c'est aussi c'est une histoire de représentation de ce que.
Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend alors avec cette histoire de la marche et pourquoi ça s'arrête en 1914 ? Pourquoi vous faites
ça s'arrête en 1914. Oui, voilà. C'est-à-dire, d'un point de vue scientifique, le régime va changer. C'est-à-dire, la science va passer à autre chose. C'est-à-dire.
Ouais.
Face à la complexité de l'acte, mais aussi, il y a aussi le progrès Bon, il y a la Première Guerre mondiale qui introduit toute une nouvelle, c'est toute une nouvelle donne, évidemment, c'est-à-dire pour les militaires, ça change. Mais la science va progressivement passer à la simulation, c'est-à-dire on va avoir d'autres modélisations mathématiques, notamment plus récemment. Mais on va abandonner l'idée de l'activité réflexe aussi, c'est-à-dire que c'est les muscles avec les antagonistes qui font la marche en quelque sorte.
Aujourd'hui, il y a une science de la marche toujours.
Oui, il y a une science de la marche, mais c'est essentiellement l'affaire du système nerveux, qui est un système nerveux autonome, c'est-à-dire qui n'est pas lié au cerveau, c'est-à-dire qui règle en quelque sorte ces actes très complexes et sur lesquels on peut aussi maintenant intervenir avec des interventions électriques et tout ça.
Andrés Maillard, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Oui. Léo nous dit « Je comprends à vous écouter que chacun a sa façon de marcher. Alors qu'est-ce qui, dans la démarche d'un individu, trahit sa personnalité ? Est-ce qu'il y a des faits particuliers, en tout cas des mouvements qui racontent quelqu'un, l'individu, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec vous ?
Bah oui, on pourrait dire voilà quelqu'un qui... je ne sais pas, en fait, quelqu'un qui a une marche saccadée, on va dire, je peux prendre l'exemple de Balzac. Balzac pense que la femme qui marche de manière saccadée, bah, ça trahit comment elle fait l'amour. C'est un peu grossier, peut-être, mais en fait, il y a cette idée d'une harmonie, en quelque sorte, entre le pas et d'autres mouvements, qui sont des mouvements secrets, mais qu'on révèle en quelque sorte en marchant.
Ouais, évidemment, c'est une image du 19e siècle, hein, il faut le replacer dans le contexte. Est-ce que lui, il avait une démarche particulière, Balzac, parce qu'il buvait beaucoup de café, on en avait parlé aussi dans l'émission. Est-ce que ça jouait aussi sur sa démarche ou pas ?
Bah, certainement, et comme vous le savez très bien, comme tout le monde sait, Balzac, il aimait aussi la bonne chair, c'est-à-dire qu'il était assez corpulent. Ouais. Et Balzac a beaucoup de remarques sur les obèses et tout, et, c'est-à-dire... il marchait de plus en plus difficilement. Ouais.
Jean-Christophe nous dit justement, la marche digestive après le repas est-elle un moment propice au prolongement de l'interaction avec les autres et la nature ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, la marche digestive, c'est souvent un mouvement très solitaire, n'est-ce pas ? Je dirais, en fait, du moins pour moi.
Donc, ce n'est pas une interaction avec les autres, c'est ce que vous dites ?
Bah oui, on peut interagir avec les autres aussi. Oui.
Alors, dernière question de Fred, avec la tendance du jogging, du running, la marche est-elle devenue un lieu de compétition sociale, selon vous ? Très vite.
Ah oui, là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, et ça n'a rien à voir, c'est-à-dire, marcher, c'est, comme le disait Rousseau, comme les chevaliers errants, c'est-à-dire d'un pas lent, propice à la méditation.
Oui, il y a l'aspect solitaire.
Tout à fait.
Évidemment.
Oui.
Merci beaucoup, Andrés Maillard, d'être venu au micro de la Terre au Carré. Je renvoie sur votre ouvrage. Ça s'appelle La Marche, histoire d'une fascination savante, avec une iconographie aussi. Il y a plein de photos et de schémas retrouvés dans votre livre. C'est aux éditions Les Belles Lettres. Merci beaucoup à Achille Aknin, qui est avec nous à la technique, Jérôme Boulet, qui réalise cette émission, et Lucie Sarfati, qui signe la coordination et la programmation.